Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 19e épisode de Popol. Et pour ce 19e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Mathilda Murcia. Bonjour Mathilda.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va très bien, merci.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît?
Donc Mathilda Murcia, 32 ans, je suis chef de projet communication. Ça fait 10 ans que je travaille dans la communication et j'ai surtout travaillé dans le milieu politique où j'ai d'abord commencé en campagne pour les Républicains, c'était un premier emploi. Puis ensuite, je suis passée au niveau du PS et surtout dernièrement, depuis les élections d'Emmanuel Macron, j'ai travaillé au sein de ses équipes dans le Val d'Oise et après, je suis montée au QG. Et après cette expérience-là, je suis partie sur des postes plus en freelance où j'ai accompagné des entreprises et des associations. Dans leur projet de communication.
Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Astrid Riffard. Bonjour Astrid.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Très bien, merci.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît?
Oui, alors moi, du coup, je suis étudiante à Sciences Po Lyon en affaires publiques, parcours action et gestion publique. J'ai passé l'année dernière en mobilité académique à Varsovie, à l'Institut d'études politiques et relations internationales. Et là, j'envisage par la suite de mes 5 ans à Sciences Po de passer les concours de la haute fonction publique. Voilà, et sinon, je suis associativement investie dans Sciences Po au féminin, qui est le réseau professionnel des étudiantes et des diplômées de tous les IEP de France et qui promeut le féminisme, la sororité. Et du coup, moi, je suis co-responsable à l'échelle du pôle lyonnais.
Super, merci beaucoup. Et enfin, nous avons aussi avec nous Olivia Polski. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien. Bon, après, enfin très bien. Dans un contexte compliqué, mais moi, ça va.
On fait aller, quoi, c'est ça?
Voilà.
Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît, Olivia?
Eh bien, moi, je suis donc adjointe d'Anne Hidalgo. Je suis en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et indépendantes, de la mode, du design, des commerces culturels. Donc, un secteur qui est un peu en souffrance en ce moment, pas mal touché par la crise. Voilà, moi, je suis sinon porte-parole de la Fédération du PS de Paris. Je suis au Bureau national du PS. Voilà, je suis très investie. Je suis militante. Je me suis engagée en 1997 au PS. Donc, militante depuis un bout de temps.
Voilà. Super. Et du coup, tu étais déjà à la mairie de Paris pendant le précédent mandat, hein?
Oui, j'étais aussi adjointe d'Anne, pareil.
Super. Sur le même poste, le même portefeuille?
À peu près, oui, j'avais la même chose. J'ai le commerce culturel, la mode, le design en plus, depuis les métiers d'art depuis le début du mandat, là. Mais c'était un truc un peu plus cohérent, globalement. Voilà, ça allait avec ce que je faisais avant.
Super, ben merci beaucoup à toutes les trois d'être là aujourd'hui, enfin là virtuellement, sur ce plateau virtuel encore une fois de Popol. Nous allons aujourd'hui parler de deux sujets. Nous allons parler de la communication du gouvernement pendant cette crise et enfin de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Donc, sans plus attendre, premier thème, la communication du gouvernement pendant cette crise. Cela fait un an qu'Emmanuel Macron annonçait le premier confinement. Pour ce premier discours, le chef de l'État avait choisi d'adopter une rhétorique martiale. « Nous sommes en guerre », avait-il affirmé, tout en annonçant aux Françaises et aux Français qu'ils devaient rester enfermés pendant des semaines. Depuis, le ton a changé. La métaphore militaire a été abandonnée et les notions de responsabilité collective et de résilience sont régulièrement convoquées par les membres de l'exécutif. Mais plus globalement, les inexactitudes, les changements de dernière minute, les injonctions contradictoires créent un climat excessivement anxiogène pour l'ensemble de la population. Ce climat semble nourrir la défiance politique, puisque selon le baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, seulement 36% des personnes interrogées disaient faire confiance au gouvernement dans la gestion de la crise. Face à cette situation, le gouvernement ne devrait-il pas changer de méthode et revoir peut-être sa stratégie de communication? Par ailleurs, quelles pourraient être, sur le long terme, les conséquences politiques de certaines erreurs de communication? Et je vais donner la parole d'abord à Mathilda. Qu'est-ce que tu penses un peu de la communication du gouvernement pendant cette crise?
Bon, on est dans une période qui est forcément très compliquée. Tous les pays du monde entier sont touchés. Mais nous, en tant que Français, on voit comment c'est géré dans notre pays. Et la communication, je pense, a manqué sûrement un peu plus de pédagogie. Des choix ont été faits et malheureusement, très souvent, d'ailleurs même comme ce dernier confinement qui concerne l'Île-de-France, enfin les 19 autres départements concernés par ce confinement, on a besoin d'être un peu plus, je ne sais pas comment dire, mais ouais, il n'y a pas assez de pédagogie, clairement. On ne comprend pas pourquoi un coiffeur resterait ouvert et pas un salon d'esthétique. Je pense qu'ils se sont perdus en chemin. Au début, ils avaient une communication qui, pour moi, était très bonne. Et d'ailleurs, elle a été reconnue dans le monde entier. On était l'un des pays les mieux organisés. Le Times avait fait un super article, d'ailleurs, sur la gestion de la crise. Mais malheureusement, ces derniers temps, il y a eu un vrai séisme qui s'est produit entre le gouvernement et du coup, les citoyens. Et on est clairement perdu. Perdu parce que la communication n'est pas assez aboutie, pas assez travaillée. Et peut-être qu'il manque beaucoup plus d'implication des députés qui pourraient, du coup, être complètement les relais sur les départements. Et je ne sais pas où ça va. On va arriver... à quel but ou à quel objectif, mais en tout cas, la communication aurait dû être mieux gérée. Après, c'est forcément très compliqué, on est dans une crise sanitaire, donc tout ne peut pas être parfait, mais attendons de voir la suite, et malheureusement, on nous demande d'être très patients sans nous donner vraiment d'éléments concrets sur ce qui peut se passer demain.
Il y a un peu un problème de lisibilité, ça c'est certain. Et sur les conséquences sur la démocratie, sur le rapport entre le peuple et les gouvernants, qu'est-ce que t'en penses?
Alors, j'en ai entendu, personnellement, j'y pense rien parce que c'est pas moi qui est décisionnaire et je m'y connais pas assez pour me dire ok, là ils étaient dans le juste ou là ils étaient dans le faux. Mais en tout cas, on parle très souvent de liberticide. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas sur le territoire, qui se plaignent de ne plus avoir la même liberté qu'avant. Des commerçants aussi qui se plaignent clairement qu'on est en train de tuer leur commerce. Malheureusement, on est clairement en crise, même en crise de communication et de compréhension. Sur le côté démocratie, en fait, quand on est en crise, c'est difficile de dire est-ce qu'on est en toute liberté ou pas. Et ça, je pense qu'ils auraient peut-être dû beaucoup plus nous expliquer pourquoi faire ces choses-là. Et donc, du coup, on aurait peut-être perçu un peu plus de démocratie derrière ça. Et justement, parce que tu es un peu martial, comme tu le disais tout à l'heure.
Olivia, toi, en plus, au niveau de l'exécutif local, au niveau de Paris, comment tu perçois toute cette communication et aussi les impacts que ça peut avoir sur la confiance envers les personnalités politiques?
Alors, d'abord, je pense qu'un des principaux sujets, effectivement, c'est aussi de pouvoir s'adapter à des réalités locales. C'est-à-dire que la difficulté dans laquelle on se retrouve, c'est qu'on est quand même dans un système qui est très vertical depuis le début. Une des demandes des élus locaux, hein, c'est pas qu'à Paris, c'était évidemment de pouvoir être associé, est-ce que les choses... Donc là, il y a un peu de bouger, parce qu'on voit bien qu'ils ont fait des adaptations locales, mais ça a mis du temps. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense, parce qu'on parlait de confiance tout à l'heure, qu'on a un enjeu aujourd'hui, il y a une crise de la confiance, une crise démocratique, une crise de la représentation, donc ça a déjà été évoqué quand même avant même la crise du Covid, d'ailleurs. Et on voit bien qu'il y a une vraie question pour la démocratie représentative. Alors, en plus, là, Macron pousse le truc à l'extrême, ce qu'il avait fait même dans la crise des Gilets jaunes. Il incarnait quelque chose quand il était tout seul, comme ça, debout au milieu de la foule. Et là, on est toujours sur quelque chose de très vertical. Enfin, les expressions de tous les jeudis télévisés, où il y a le truc qui redescend comme ça, on voit bien qu'il y a un vrai problème. Et au-delà de la question de la démocratie représentative, il y a un vrai sujet à travailler, qui est la question de la participation des citoyens. Ce n'est pas juste de la pédagogie. Il faut, et c'est Dominique Rousseau qui appelle ça la démocratie en continu, il faut sans... À mon avis, la démocratie en continu sera ce qui va permettre de revitaliser la démocratie représentative. Alors, sans la remettre en question, il faut qu'on rajoute d'autres étages, d'autres choses et qui permettent pas juste tous les 5 ans d'être jugé, mais en continu d'associer, de travailler avec les gens. Ça, on ne peut pas se permettre juste voilà, tous les 5 ans de rendre des comptes aux gens. Maintenant, il faut rendre des comptes tout le temps. Et je pense que ce sera une des meilleures façons de lutter contre cette crise de la confiance qui est évidente.
C'est intéressant ce que tu dis en termes de démocratie participative. Je sais que l'Amérique, pareil, est très attachée. Il y a eu des initiatives qui ont été prises au début de la crise sanitaire, notamment la ville de San Francisco qui avait décidé d'impliquer les habitantes et les habitants dans la prise de décision sur les questions de restriction. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous avez pensé au niveau de la mairie de Paris? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager d'adapter au niveau local?
On a déjà commencé, effectivement. On a mis en place, en fait, la maire a mis en place un comité consultatif. Donc, on a à la fois des moments de travail avec les différents représentants d'associations, de syndicats professionnels, etc. Et il y a aussi, notamment, toute une dimension de travail avec les citoyens. Et par exemple, hier, j'ai été, moi, auditionnée en tant qu'adjointe au commerce par un panel de citoyens. Ils sont 34, donc voilà, ils m'ont posé plein de questions. Et l'idée, c'est eux qui vont rendre aussi des préconisations, des choses comme ça. L'idée, c'est effectivement de travailler là-dessus.
J'imagine que c'est vital. Pardon. Ouais, bien sûr. Tu dois être un peu... Tu dois être un peu en ligne de défense par rapport aux décisions qui sont prises au niveau national, mais que tu es obligé de faire appliquer au niveau local. Je pense pas précisément aux commerçants. Comment tu arrives à gérer ces règles qui, finalement, comme le disait Mathilda à très juste titre, sont pas très cohérentes? Enfin, pourquoi on pourrait aller se faire décolorer les cheveux mais pas se faire épiler les jambes? Enfin, et pourquoi on pourrait aller acheter des livres mais pas des t-shirts? Enfin, comment tu arrives à communiquer, toi, avec des mesures un peu incohérentes avec les commerçants et les commerçantes à Paris?
Honnêtement, c'est pas facile. C'est pas simple. Et je les comprends. Enfin, je veux dire, après, on est aussi dans une période très particulière et ils sont tous très conscients quand même de la situation sanitaire. C'est-à-dire que quand je discute avec eux, je partage le fait que, par exemple, on sait que les places en réanimation sont en très forte tension et que c'est dramatique. Et ils ont aussi eux-mêmes des proches qui ont été malades ou qui peuvent l'être. Donc, les commerçants, ils sont pris aussi dans une double... dans un double truc comme ça où à la fois évidemment ils peuvent être touchés eux-mêmes et en même temps ils ont un impératif de survie économique, hein. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils fassent manger leur famille, donc c'est pas facile et ils sont eux-mêmes toujours pris dans cette double difficulté. Donc on essaye de, voilà, sur la question des librairies par exemple, on a mené un combat qui a fini par aboutir. On essaye aussi sur la question de la culture de faire un peu bouger les choses parce qu'on est persuadé qu'on pourrait faire réouvrir autrement, hein, bien sûr, mais réouvrir autrement des lieux de culture. Mais c'est toujours très compliqué et puis on essaye d'accompagner comme on peut. Financièrement, on a mis en place un plan d'aide pour tous ceux qui peuvent pas ouvrir, mais c'est pas... plus ça dure, plus c'est compliqué, quoi.
Ouais, et puis comme disait Mathilda aussi tout à l'heure, il y a quand même un enjeu de pédagogie qui est super important. Enfin, moi, j'ai encore du mal à comprendre comment on peut aller acheter des autres packs et pas un short, quoi. Enfin, je suis désolée, hein, c'est très trivial ce que je dis, mais enfin, j'ai pas mal d'amis qui ont des commerces à Paris, notamment des boutiques de fringues, et je vois pas comment on se contamine à ce moment-là, quoi. Enfin, j'ai vraiment du mal à piger, vraiment. Alors qu'ils respectent les mesures sanitaires, il y a 3 personnes dans la boutique grand maximum. C'est ça. Enfin, hier, j'étais chez Monop près de chez moi, c'était la cohue parce que les gens ne savaient pas ce qui allait fermer. Enfin, on était tous blindés. Moi, je suis sortie, hein, au bout de 5 minutes. J'ai pas pris les affaires, rien. C'était hallucinant. C'était pire que dans le métro. Donc, c'est vraiment difficile, quoi. Et j'imagine que toi, tu dois faire affaire. Comment tu peux expliquer des mesures qui semblent parfois incohérentes? Ça doit être vraiment compliqué.
Je dis qu'elles sont pas les miennes en tout cas, mais quand même on est, non mais après on est, voilà, il faut quand même aussi qu'on soit un peu responsable On prend voilà, les décisions, on est démocrate, ils ont été effectivement élus, ce gouvernement, donc on est dans un cadre qui reste celui de la démocratie, et donc les décisions, on les respecte. On va pas les... Voilà, c'est important de garder quand même ce cadre-là aussi. Donc après, la question, c'est comment on essaye au mieux d'accompagner ceux qui sont du coup dans ces situations difficiles, quoi.
Ouais, bien sûr. Astrid, tu vois ça comment, toi ?
Alors moi, tout d'abord, je rejoins vraiment Mathilda lorsqu'elle a évoqué une crise de la communication, parce qu'en effet, en fait, on est dans une communication en temps de crise, mais cette communication est en crise parce que déjà, c'est une communication qu'il a fallu établir sur un temps long. Et en fait, quand on est en temps de crise, un gouvernement est obligé de communiquer. Sauf que par manque de cohérence dans les décisions, etc., par contradiction et hésitation aussi, tout ça, ça a contribué à impacter la confiance des Français. Et dès le début de la crise, en fait, au début, sur les masques, on est passé du tout au tout, on nous a dit qu'il était inutile, et puis après, quelques jours, voire semaines après, on nous a dit qu'il est indispensable, ensuite obligatoire, donc évidemment, ça a perdu les Français. Et je pense qu'en fait, au lieu d'assumer que l'on manquait de moyens, on a préféré nier ce besoin de moyens et on n'a pas adopté un langage de vérité dès le début. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui a impacté dès le début de la crise, je pense, la communication du gouvernement. D'ailleurs, à ce sujet, l'essai de Antoine Bristiel, qui est sorti, je crois, il y a 2 jours, quelque chose comme ça, qui s'appelle « À qui se fier de la crise de confiance institutionnelle à la crise sanitaire », en fait, évoque toutes ces questions et montre aussi que dans les pays au niveau de confiance institutionnelle les plus importants, le taux de mortalité du virus dû au Covid a été plus faible et que la mortalité liée au Covid a été plus forte dans les pays qui traversaient une crise de la défiance institutionnelle en Europe, et que plus une population avait confiance en ses institutions, plus elle allait respecter ses préconisations, et a fortiori dans un contexte de crise sanitaire. Il y a aussi des chercheurs d'Oxford dans la même lignée qui ont mis en évidence le fait que les pays au plus fort niveau de confiance institutionnelle avaient mis en place des mesures sous forme de recommandations basées sur la responsabilité individuelle, alors que les pays où la défiance était plus forte avaient mis en place des mesures coercitives qui avaient été moins bien respectées. Donc vraiment, sur cette idée de crise de la communication, je pense que c'est vraiment central en ce moment. Et le gouvernement fait des efforts pour moderniser sa communication, proposer un nouveau style de communication, je dirais. Par exemple, on a essayé d'investir les réseaux sociaux, les nouvelles plateformes, etc. Mais bon, je pense que ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard.
Et c'est intéressant cet essai. Effectivement, j'ai vu un article de l'Obs qui a été publié aujourd'hui ou hier, qui reprend ces éléments. Ouais, effectivement, c'est super intéressant sur la crise sur la défiance et le taux de mortalité. C'est hallucinant. Mathilda, tu voulais réagir ?
Alors oui, c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Astrid, dès le début, par exemple, sur l'exemple des masques, on nous a dit que c'était pas finalement intéressant, que ça servait à rien. Puis après, on a commencé à revenir un peu en disant si finalement, mais on en a plus en stock. Et après, c'était obligatoire partout. Je pense que là, ce qu'il a manqué au niveau de la communication du gouvernement, c'est clairement de la transparence et d'accepter aussi que à ce moment-là, ils n'avaient peut-être pas les informations nécessaires pour se dire en temps de Covid, on connaissait pas le virus, on ne savait pas exactement ce qu'il fallait ou ce qu'il fallait pas, comment réagir face à ça. Et si il y avait eu une espèce de vérité en disant écoutez, au moment T de cette information-là, on n'avait pas toutes ces informations. Maintenant, on sait que parce que les scientifiques ont travaillé et que du coup clairement, il faut des masques, c'est pour vous protéger. Du moment où on reconnaît qu'il y a une erreur, qu'on a manqué d'informations, du coup, notre vérité devient une vraie vérité et pas une vérité où on se dit il y a quelque chose derrière, pourquoi ils ont manqué de transparence, est-ce qu'ils nous ont caché quelque chose. Et finalement, cette histoire de masque a été vraiment l'un des premiers problèmes qu'on a connu dans cette crise. S'ils avaient vraiment été honnêtes, je dis pas qu'ils ont menti ni rien, mais je pense qu'en fait la sensation des Français, c'est qu'on nous cachait quelque chose. On n'était pas forcément totalement transparent, alors que justement depuis le début de ce gouvernement, ils ont pas manqué de transparence. Ils ont même des fois, ils ont osé certaines choses en termes de com qui étaient assez osées. Ça a payé ou non, mais au moins on savait exactement où ils étaient. Où ils s'étaient statués. Bon, après, ça dépend forcément des avis, des opinions des uns et des autres, mais je pense que ça a été vraiment un des premiers problèmes. Et après, sur le deuxième chose, où Astrid disait qu'ils ont voulu aller sur des nouveaux réseaux, que ce soit Snapchat avec Marlène Schiappa, ou que ce soit sur Fun avec c'était Gabriel Attal. En fait, pour le coup, je trouve ça assez intéressant parce qu'ils communiquent toujours dans les mêmes créneaux. C'est-à-dire qu'on va aller sur Europe 1, on va aller sur France Inter, on va aller sur RMC, on va aller sur BFM, on va aller sur BFM ou CNews. Sauf qu'en fait, ce n'est pas l'intégralité de la population qui est sur ces créneaux de radio ou de télé. Et du coup, dès le début, s'ils avaient réussi à investir dès le début de cette crise, toutes ces plateformes, même du Twitch, comme Mélenchon l'a fait durant une précédente campagne, je pense qu'on aurait pu être directement dans la communication instantanée en disant « on est en crise, on a un problème, on ne connaît pas encore toutes les solutions ou qu'est-ce que ça donne, mais voilà toutes les informations heure par heure ». Ce qu'ils ont voulu faire, mais en manquant un peu de transparence et énormément de pédagogie. Hein, parce que forcément, comme tu le disais tout à l'heure, pourquoi aller chez Monop, mais pas aller acheter un t-shirt? Et pourtant, on sait bien que dans les magasins de vêtements, ils sont obligés de garder leurs vêtements de côté quand ils ont été essayés. En tout cas, il y a plein de petites mécaniques qui sont faites pour certains commerçants ou pour dans tout domaine, en fait. Et que je pense que s'ils avaient plus communiqué, pris plus le temps en fait, d'expliquer, on aurait pu, enfin, sûrement que la population aurait compris beaucoup plus de choses, et je m'inclus dedans. D'ailleurs, je crois que c'est bien la première fois que pour jeudi 18h, j'étais avec mon chéri et nos voisins, et on regardait ça un peu en disant qu'est-ce qui va nous arriver, parce que lui travaille dans la banque, des amis sont commerçants, et puis bon, moi je venais d'arrêter de travailler, donc je voulais juste savoir où est-ce que ça allait nous mener. Et ils n'ont rien compris. Et même moi, au bout d'un moment, j'étais perdue dans le discours de Castex. Et pourtant, c'est quand même des moments que je ne loupe pas. Cette communication politique que, en général, je comprends. Et là, je ne voyais pas où ils voulaient en venir. Et c'est là où ça devient flippant, en se disant, mais vous savez vraiment où vous voulez aller? Parce que du moment où il y a quelque chose de pas sûr, directement, nous, on se met en position de... On n'est pas sûr, du coup, de ce qui se dit. Donc, est-ce qu'on connaît vraiment les conséquences? Et est-ce qu'on sait vraiment où on va? Et on a envie d'avoir confiance dans notre gouvernement, parce que c'est quand même c'est eux les décideurs. Donc, on a bien envie d'avoir confiance, mais il faut vraiment nous expliquer les choses.
Oui, tu as raison, ça donne... Ça effrite un peu la conscience, et puis ça crée le doute, en fait. Et ça, c'est vraiment pas sain. Et moi, il y a autre chose qui m'a vraiment perturbée, et après, je te laisse la parole, Olivia, pour réagir. C'est toute cette communication qui n'en est pas vraiment une, où on nous donne des informations sans vraiment nous en donner. Je veux dire, l'interview de Castex l'autre soir était quand même assez édifiante à cet égard. On va prendre des mesures pour l'Île-de-France. Voilà, d'accord. Donc, du coup, ça nous a donné 48 heures de flip en plus. Super. Je parle de l'Île-de-France parce que c'est là où j'habite. Hein. C'est pas parce que je suis îlot de France centrée, je ne sais pas comment on appelle ça, mais peu importe. C'est quand même hallucinant. Enfin, on peut pas. Et ça, c'est des sorties qui sont constantes. Aussi, alors ça, c'est assez intéressant. Ce qu'on ne connaissait pas auparavant, mais que le gouvernement actuel a quand même mis en place et s'en sert régulièrement, mesurer l'opinion publique avec des fuites. Et ça, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire qu'ils font des fuites en disant « Oui, on va reconfiner après-demain. » Bam, sur Twitter, shitstorm. « Ah bon, non, on ne va pas reconfiner après-demain. » Alors, enfin bref, ça, c'est quand même assez hallucinant. Tu voulais réagir, pardon, Olivia, je te laisse la parole.
Ouais, alors évidemment, il y a un vrai sujet de communication, mais c'est ce que j'essaie de... Peut-être que je ne l'ai pas bien dit tout à l'heure, mais je pense que c'est plus profond. que juste la question de la com. Je pense qu'il y a un sujet de méthode et de gouvernance. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ils ne savent pas comment faire pour associer, en fait, pour emmener les gens avec eux, comme tu dis, ils font de la com, ils essayent de faire un peu de... Ouais, limite un peu de manipulation, parce que le côté, on envoie des ballons d'essai, on voit comment les gens réagissent, et après on s'adapte. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'entraîner la confiance. Je crois que c'est vraiment une question de gouvernance, et quand je disais essayer d'avancer vers une démocratie en continu, une démocratie plus participative, enfin je veux dire, c'est comment concrètement on associe les gens effectivement aux difficultés, parce que évidemment qu'on n'est pas dans une situation qui est simple, mais comment on travaille avec eux dans le fond, et comment on les emmène, et effectivement, alors dans un moment où il y a des vérités qui ont probablement évolué, c'est-à-dire qu'effectivement ce qu'on savait du virus au début, c'est pas ce qu'on sait du virus aujourd'hui. Et donc, comment, dans un contexte qui est hyper mouvant, en fait, on ne prend pas les gens pour des pommes, et c'est-à-dire que ce n'est pas des enfants. C'est aussi ça qui est hyper dur, je trouve. C'est qu'il y a une espèce de manque de considération pour les gens, dans une espèce d'enfantilisation. Donc, la question, c'est comment on redonne aux citoyens aussi cette idée d'être des sujets, d'être des sujets qui participent. Et ce n'est pas seulement de la com. C'était un petit peu ce que je voulais dire quand je parlais de démocratie en continu, c'est-à-dire qu'on les associe, alors je ne dis pas que c'est facile, surtout en période de gestion de crise, hein, mais sauf qu'on en a d'autant plus besoin maintenant. Sinon, les gens, ils ont juste, voilà, on est tous hyper passifs, on est infantilisés, en plus on nous donne des signaux hyper contradictoires, volontairement ou involontairement, il y a des deux, donc les gens, ils sont paumés, évidemment qu'en plus derrière, ça donne... Voilà, ça fait les choux gras de tous les complotistes possibles. Hein. Donc, je crois que la question de la confiance, elle ne se bâtit pas que sur une bonne communication. C'était plutôt ça que je voulais dire.
Ouais, c'est complètement, t'as raison. Et puis, il y a autre chose aussi qui me vient à l'esprit et qui me semblait intéressant dans ce que vous étiez en train de dire toutes les deux, c'est assumer de dire « on ne sait pas ». Je pense que si les personnalités, si les gouvernants et gouvernantes étaient en capacité d'intégrer ça dans leur communication avec le peuple, ça réglerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de défiance. Astrid, je te laisse intervenir et peut-être conclure sur ce thème.
Oui, bah, du coup, moi, je suis assez d'accord par ce qui a été évoqué là par Olivia et Mathilda. Peut-être pour finir sur la stratégie de com qui aurait un petit peu évolué, il y a eu, j'ai trouvé qu'on s'est beaucoup appuyé sur les experts médicaux, les scientifiques, les indicateurs, les cartes, en fait, tout plein de moyens stratégiques pour donner un peu du poids au discours politique. En fait, ça peut fonctionner et c'est important aussi de s'appuyer sur des experts professionnels qui connaissent vraiment la situation, ce qui se passe, et qui sont légitimes à se positionner sur des mesures que l'on peut prendre, ne pas prendre, qui vont être efficaces ou non. Mais en fait, quand on rentre dans le détail vraiment de l'utilisation de ces cartes, de ces indicateurs, de comment on a vraiment écouté ce que les scientifiques disaient, je dirais qu'on n'a pas utilisé vraiment les cartes de manière vraie et honnête, parce que parfois, elles ont été un petit peu manipulées, ou du moins, elles étaient un petit peu hypocrites, parce qu'on les a utilisées pour appuyer un discours politique. On a proposé une interprétation officielle de la part du gouvernement de ces cartes pour légitimer les mesures que l'on prenait. Mais au final, les cartes synthèses qu'on présentait à la fin des cartes de différents indicateurs, ce n'était absolument pas la synthèse des cartes, c'est juste on mettait une couleur pour dire voilà, c'est vert, c'est du vert partout, donc c'est OK, ou alors c'est rouge, du coup, les cartes nous disent que c'est rouge, donc on légitime, enfin ça vient légitimer le fait qu'on prenne des mesures un peu plus restrictives, etc. Donc je pense qu'il faut garder vraiment un regard critique sur tout cela, parce que on peut être un petit peu manipulé ou du moins notre pensée peut croire en certaines choses qui peuvent être, je dirais, détournées, et voilà.
Oui, tu as raison, je crois que c'est une bonne conclusion, garder un regard critique sur tout ça, et le regard critique, on va l'avoir aussi sur la campagne de vaccination, qui est notre deuxième thème aujourd'hui. Allumage difficile au démarrage, retard de livraison, incertitude autour du vaccin AstraZeneca, autant d'éléments qui nous laissent penser que la campagne de vaccination patine pas mal depuis son lancement. La suspension du vaccin AstraZeneca pendant quelques jours cette semaine est venue retarder davantage les vaccinations. On est ainsi passé d'environ 220 000 vaccinations par jour à 205 000 en une semaine. Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'avoir vacciné 10 millions de personnes d'ici au 15 avril. Cet objectif semble un peu ambitieux étant donné que seulement 5,6 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cet objectif est tenable ? Faut-il accélérer cette vaccination coûte que coûte ? Si oui, comment ? Le 16 janvier dernier, un collectif citoyen sur la vaccination a été lancé, mais on n'en entend plus vraiment parler. D'ailleurs, lorsque l'on clique sur le lien devant renvoyer sur la page de ce collectif, un message d'erreur s'affiche sur le site du gouvernement. J'ai essayé tout à l'heure. Que fait ce collectif ? Pourquoi est-il si silencieux ? Ne faudrait-il pas davantage le mettre en avant ? Ou quels moyens peut-on développer pour associer les citoyennes et les citoyens à cette campagne ? Olivia, est-ce que tu veux commencer là-dessus ?
D'abord, la vraie difficulté sur la question des vaccins, c'est qu'on voit bien qu'il y a des loupés. Il y en a eu sur les masques, il y en a eu sur les tests, et maintenant, il y en a sur les vaccins. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on a des ratés, donc évidemment, ça n'aide pas du tout. Alors, sur l'AstraZeneca, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est en plus, ils ont décidé de suspendre pour une demi-journée. La vaccination, c'est totalement illisible, c'est-à-dire que ça rajoute de la confusion dans un moment. Et en plus, ils auraient pu faire la transparence dès ce moment-là sur les résultats, parce que par exemple, typiquement, le nombre de cas de thrombose qui était pour chaque type de vaccin connu, il est exactement le même. Donc, j'ai même pas compris qu'il laisse accréditer l'idée que ça puisse. Je pense qu'il y a eu un espèce de phénomène un peu de foule en Europe. C'est comme un espèce de gros phénomène d'entraînement. On a vu les pays les uns derrière les autres comme ça. Mais c'est terrible, quoi, parce qu'on va ramer maintenant. Donc, pour expliquer aux gens qu'en fait, l'AstraZeneca, c'est pas un vaccin de seconde zone, ça va être difficile. La réalité, c'est qu'il est tout aussi bon. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus de thrombose que pour les autres. Il va, à mon avis, falloir quand même faire une grosse campagne de transparence sur aussi les différents vaccins. Il va falloir effectivement faire de la pédagogie. Et puis, je pense quand même que les gens vont avoir envie de se vacciner. Il faut effectivement qu'on accélère. C'est ce qu'ils disent, qu'ils veulent faire, mais enfin bon, ils en parlent depuis un certain temps et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Mais il faut absolument qu'on accélère cette phase de vaccination parce que, en fait, c'est la seule façon de revenir progressivement à une situation normale. Donc, on espère que le confinement, là, c'est le dernier, enfin, le confinement, qui n'en est même pas vraiment un d'ailleurs. On ne sait pas si c'est un confinement, juste des restrictions, un reconfinement, re-restriction. Tout ça est trop, tout se mélange, mais on voit bien que la question du vaccin, c'est la clé. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait une bascule à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y avait eu des gens qui étaient plutôt contre le... je me rappelle, en décembre, les gens, ils hésitaient sur la question de la vaccination. Et puis après, quand ils ont compris qu'en fait, c'était la clé pour reprendre une vie normale, les gens ont tous eu envie de se faire vacciner. Donc, il faut, à mon avis, être pédago aussi sur cette idée que c'est ça qui va nous permettre de revenir à... une vie normale, tout le monde a envie de retourner en terrasse et en revoir des copains, manger au resto. Aller dans des festivals. Donc, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres solutions pour éviter la propagation du virus. Il faut que la population se vaccine.
Et sur l'implication des citoyens par rapport au collectif citoyen, c'est vrai qu'on n'en entend plus parler. Toi, tu en entends pas, t'en entendu parler?
Non. Non, j'en ai pas entendu parler.
C'est pas ce qu'il fait. Hein. Pendant les conférences de presse, il est absent. Il n'y a pas un seul représentant. Ce serait pas mal d'avoir peut-être un retour sur ce qui se passe.
Mais est-ce qu'il y a une vraie transparence sur les résultats du conseil scientifique aussi ? Enfin, je dirais, à un moment donné, il faut que tout ça soit mis sur la table. Et effectivement, tu as raison, le fameux panel citoyen.
Bref, on attend de bonnes nouvelles, les gars. Si vous êtes là, manifestez-vous. On a des appels à témoignages parmi celles et ceux qui font partie de ce collectif. Que faites-vous ? Où vous cachez-vous ? Astrid, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette campagne de vaccination en ce moment ?
Ah oui, non, mais moi, là, je rejoins tout à fait ce qu'Olivia a souligné. Déjà, je suis intimement convaincue que la vaccination, c'est vraiment le moyen de sortir de cette crise et de retrouver une vie normale, mais ce n'est pas quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la population. Et la suspension du vaccin n'a fait que, je pense, amplifier la méfiance vis-à-vis de ce vaccin, hein. Déjà qu'au mois de mars, toutes les doses n'étaient pas utilisées, seulement 70% sur les 100% de doses qu'on avait. On cherchait de la population, enfin, des gens pour se faire vacciner. Là, il va vraiment falloir en effet faire un effort pour en fait convaincre la population, parce que je pense qu'on n'est pas assez dans un discours pour convaincre, expliquer, en effet faire de la pédagogie comme ce qu'on vient de dire, pour pallier ce scepticisme. Vraiment, ça manque. Du coup, là, il va falloir communiquer. Encore, on est encore dans le sujet de la communication, communiquer mieux. Et d'ailleurs, j'ai lu un article sur ce collectif citoyen sur la vaccination. Alors moi, je ne connaissais pas son existence avant d'écouter un de tes anciens podcasts où il a été abordé. Du coup, j'ai fait quelques recherches et tout. Je me suis dit, mais attends, je ne suis pas du tout au courant, c'est quoi et tout.
Popol étant le seul média qui parle de ce collectif, vraisemblablement.
Tout à fait. Donc, j'ai fait quelques recherches et suis tombée sur un article qui disait que le collectif avait fait des recommandations, devait faire des recommandations dans le but d'accompagner la campagne vaccinale, qui s'était réuni 3 fois et que la prochaine fois, c'était normalement le 29 mars, et que dans ces recommandations, les membres du collectif réclamaient des objectifs plus clairs et une approche territorialisée pour multiplier les lieux de vaccination. Mais aussi mettre en place une campagne de communication adaptée aux différents publics que l'on souhaite viser, que de tous les milieux sociaux, les jeunes, etc., faire des spots de com pour vraiment faire le centre, tourner le centre de l'attention sur la nécessité de se faire vacciner. Et il y a aussi eu une plateforme collaborative qui a vu le jour pour consulter la population sur la question du passeport vaccinal. Et il y a eu 100 000 contributions. Et sur ces 100 000 contributions, il y a 67% des participants à l'enquête qui se sont dit très défavorables. Et cela va permettre aux collectifs citoyens d'intégrer dans ces propositions ce qui a été souligné par ces chiffres et aussi les arguments des contributions. Mais en effet, on en revient sur la question de la démocratie, je pense. On n'en entend pas parler et je pense que c'est grave du coup parce que ce sont des citoyens qui réfléchissent à ces questions et on ne sait pas en fait ce qu'il en ressort, on ne nous informe pas dessus et c'est un vrai problème.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Oui, c'est un outil qui pourrait être utilisé à bon escient et qui pourrait être intéressant, qui pourrait d'ailleurs peut-être permettre de casser un peu cette crise de confiance envers le pouvoir. Mathilda, toi, quel est ton regard sur cette campagne de vaccination?
Alors, je peux que être 100% d'accord avec Olivia et Astrid. On va pas beaucoup se contredire dans ce podcast, mais j'ai été comme Astrid. En fait, je connaissais pas ce collectif et pareil, c'est dans Popol que j'en ai entendu parler et je me suis dit mais comment c'est possible que on mette en avant des citoyens qui peuvent du coup être des porte-parole, qui peuvent du coup donner de la crédibilité aux actions du gouvernement et qu'on les mette pas en lumière. Pour moi, c'est faire une action mais la cacher. pareil, il y a la stratégie de com, là, elle a été complètement, désolée, hein, mais foireuse, parce que justement, je pense que comment justement donner plus confiance aux citoyens qui étaient quand même... Enfin, moi, j'ai entendu de tout hein, sur le vaccin. J'ai mon entourage qui m'a posé beaucoup de questions, comme si j'étais une experte scientifique, alors que pas du tout. Mais c'est vrai que... Alors, on va dire que les plus de 65 ans, comme ils étaient peut-être un peu plus apeurés de ce virus, ils savaient qu'ils allaient le faire et ils n'attendent qu'une chose, c'est de le faire. Et j'en ai beaucoup autour de moi qui me disent « j'arrête pas d'appeler, je n'arrive pas à avoir de rendez-vous ». Donc du coup, ça devient un vrai problème. On se dit « mais pourquoi en fait on est dans une crise et pourquoi je ne peux pas avoir ce vaccin qui pourrait peut-être me sauver la vie ?» Et deuxièmement, au niveau des jeunes, bon, j'ai 32 ans, je me considère encore jeune, mais en tout cas dans mon entourage, j'ai énormément de personnes qui me diraient « mais je ne vais pas me faire vacciner, j'ai aucune confiance en le gouvernement ». Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas mettre de masque, puis après il fallait en remettre, et après il y a eu d'autres problèmes. Comment avoir confiance dans un vaccin pour lequel finalement on n'a pas eu forcément beaucoup de transparence, on ne nous a pas expliqué beaucoup de choses. Et je trouve que il y avait une action de com que certains pays avaient fait, comme en Angleterre ou aux États-Unis, c'est qu'on a vu Joe Biden se faire vacciner, on a vu Michelle Obama se faire vacciner, on a vu la reine d'Angleterre se faire vacciner. Bon, après, bien évidemment, il y a les complotistes qui ont expliqué que ça pouvait être des fausses piqûres et compagnie. Mais en tout cas, ils ont fait le geste de le faire et de le médiatiser. Pourquoi actuellement ? Le seul qui l'a fait, c'est quand même Jean Castex, et c'était seulement, je crois, hier ou avant-hier. On est quand même hyper en retard. Alors peut-être qu'il y avait des problèmes au niveau, une crainte au niveau du vaccin, ou, je ne sais pas, parce que encore une fois, ils ont manqué de transparence. Le souci étant que on a besoin d'être vaccinés. Si on a envie d'avoir les mêmes images qu'on a pu voir en Israël, où ils sont tous dehors à faire la fête et à revivre, en fait, c'est notre seule solution. Donc forcément, je pense qu'il y a eu une crainte qui a été créée durant cette crise sanitaire. Mais en plus, on n'a pas réussi à accompagner cette campagne de vaccination. Et je pense que c'est pas encore trop tard, en fait. Je pense qu'ils peuvent vraiment l'activer maintenant. Ils ont des objectifs qui pourront peut-être tenir, et je l'espère, parce qu'on est tellement en train d'attendre ce vaccin pour pouvoir revivre. Et en vrai, avant-hier, quand on nous a annoncé qu'on repartait en confinement, donc du coup pour l'Île-de-France, mon entourage s'est dit « mais en fait, si on avait eu le vaccin, on partirait peut-être pas à nouveau en confinement ». Alors oui, bien évidemment, parce que du coup, il y aurait sûrement moins de problèmes et moins de risques. Mais actuellement, on n'arrive pas à accompagner cette communication de crise due au Covid, et on n'arrive pas à accompagner cette campagne de vaccination. On est franchement face à un mur, et que si jamais ils n'arrivent pas à reprendre les rênes et à peut-être refaire comme disait Olivia, peut-être refaire de la démocratie participative, en tout cas, trouver des solutions pour intégrer des gens dans leur com, on n'en sortira jamais, en fait. Parce que là, actuellement, le vaccin, c'est vraiment la seule solution.
Ouais, c'est clair. Olivia, tu voulais réagir sur ce qui a été dit ?
Ouais. Je pense qu'on n'en entend pas parler de ce comité, parce que, encore une fois, le sentiment qui est donné, c'est que les décisions, elles sont prises uniquement par Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, il y a quand même, quand je parlais de verticalité à un moment donné, on a l'impression que personne, même, enfin, je veux dire, il y a eu énormément d'articles qui sont sortis là-dessus, que même dans le gouvernement, même les conseillers, même le Premier ministre, des fois, ne savent pas quelle décision va être prise quelques minutes, quelques heures avant que ce soit annoncé. Quelle décision va être prise. Donc, ça donne le sentiment qu'il n'y a que Emmanuel Macron qui prend la décision. Donc, évidemment, un comité consultatif, à quoi bon ? Surtout que ça fait écho aussi à des choses, et je pensais notamment à la question de la Convention citoyenne pour le climat, qui a quand même rendu un certain nombre de préconisations sur lesquelles il y avait un certain nombre d'engagements. Et en fait, on a quand même le sentiment que tout ça a été mis à la poubelle. Si c'est pour vider de son sens des instances qui sont censées effectivement incarner un peu de démocratie participative, etc., bien sûr qu'après on n'entend plus parler, que les gens considèrent qu'il n'y a pas d'enjeu dans ces lieux-là, quoi. Donc je pense qu'il faut effectivement qu'ils arrêtent cette communication ultra verticale. Je pense qu'il faut trouver les moyens de travailler. Donc ça, c'est vraiment, enfin, pour le coup, il y a eu un vrai bouger sur la question de la territorialisation. Donc ça, c'est quelque chose pareil. Enfin, nous à Paris, la demande de la maire, c'est d'essayer de trouver des lieux pour que les gens puissent continuer à avoir une activité physique, ça a été entendu, mais parce qu'évidemment, on est tout le temps en train de balancer entre cette idée de préserver la santé physique des gens, de préserver une santé économique qui permet aux gens quand même de bouffer, hein, enfin, c'est aussi ça, et une santé mentale. Donc là, on en arrive à des difficultés tout le temps entre lesquelles il faut arbitrer, mais du coup... c'est d'autant plus important d'arrêter cette verticalité, quoi, je pense, vraiment.
Oui, ça c'est clair. Mais je me demande si le message n'a pas été un tout petit peu entendu, parce que vous aurez noté vous aussi que d'habitude, c'est Emmanuel Macron qui annonce les mesures de confinement lorsqu'elles sont vraiment drastiques. Hein, je ne parle pas du pseudo-confinement le week-end. Et là, c'était Jean Castex, donc peut-être qu'il y a eu...
Je ne crois pas que ce soit tellement différent si c'est Castex ou Emmanuel Macron. On sait quand même où ont été prises les décisions juste avant, quoi. Qu'il soit le porte-parole d'Emmanuel Macron, c'est
oui, c'est certain. Mais sur l'image, tu vois.
Que ce ne soit pas tout le temps lui qui...
soit pas le président, de manière personnelle. Machin, oui, voilà. Ouais, carrément. Puis beaucoup disent que Castex ne sert à rien. Donc, à un moment donné, il fallait quand même... c'est pas moi qui dis ça, loin de là. Mais donc, beaucoup ont critiqué aussi son rôle en disant que finalement, il était un peu inutile. Donc je pense que ils ont peut-être essayé de le remettre en avant pour montrer que c'était quand même malgré tout le chef du gouvernement. Astrid, je te laisse le mot de la fin.
Oui, donc pour conclure, je pense aussi que si le gouvernement veut vraiment accélérer les choses, il faut aussi se bouger pour avoir des doses, parce qu'on sait que AstraZeneca va ne nous fournir que 25% des doses qui étaient prévues pour mars et avril. Il y a un contrat entre l'État et AstraZeneca, donc au bout d'un moment, il faut mettre un peu la pression pour que le contrat soit respecté, parce que sinon, on va où, quoi. Ensuite, les États-Unis aussi disposent de 30 millions de doses AstraZeneca qui ne sont pas mises sur le marché parce qu'ils n'ont pas encore validé l'autorisation de mise sur le marché. Donc, pourquoi pas, je ne sais pas si c'est possible, mais négocier avec les États-Unis pour obtenir des doses et ensuite, d'ici la validation, ils auront récupéré leur nombre de doses, peut-être. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des moyens pour trouver des doses et il faut que la population fasse un effort, mais aussi le gouvernement montre l'exemple, mette vraiment les bouchées doubles et que cette campagne de vaccination vraiment s'accélère pour qu'on on retrouve une vie normale le plus vite possible.
C'est clair, c'est notre conclusion à toutes ici. Tout le monde veut retrouver une vie normale le plus vite possible. On est toutes d'accord pour se faire vacciner. Youpi ! Bien, merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur ces deux sujets très importants. On va passer à vos actualités, si ça vous convient. Mathilda, à toi. De quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors, cette semaine, il m'est arrivé quelque chose d'assez improbable. J'en ai vite fait échangé avec Léa. J'ai été virée par texto. C'est quand même assez inhumain et un peu improbable. Et je me suis posé la question justement de ce monde d'après. Vous savez, après le premier confinement, Emmanuel Macron avait quand même dit qu'il y avait un monde d'après, que ça allait changer, que les gens allaient être peut-être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus humains, beaucoup plus responsables envers le climat. Il y avait plein de bonnes choses qui avaient été faites et je me rends compte qu'on est un an après et que peu de choses ont changé. Alors, je ne sais pas si c'est les mentalités qui n'ont pas encore échangé ou parce qu'on ne s'est pas pris une assez grosse claque pour se dire... Mince, en fait, les gens qui sont autour de nous, même si on ne les connaît pas, on doit cohabiter, on doit faire en sorte que le monde de demain soit meilleur. Et j'avoue que cette petite crise m'a fait bien réfléchir et je me suis vraiment remise en question et remis un peu en question le monde autour de moi pour me dire qu'est-ce qu'aujourd'hui ne va pas. Alors, je suis déjà assez militante dans pas mal d'associations comme Nous Tous, Tanga en Transition, le Working Up Day et compagnie, mais je me suis dit, je pense qu'on manque encore assez d'ouverture aux autres et de respect envers les autres parce que on a clairement connu quelque chose d'affreux là, pendant ces un an, même si je pense que je fais partie des personnes qui ont eu beaucoup de chance parce que très peu de gens autour de moi ont été touchés du Covid et heureusement, j'ai eu personne qui est décédé du Covid. Mais Mais malheureusement, bah, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et si on était un peu plus sympas les uns envers les autres et qu'on se respectait un peu plus et qu'on respectait un peu plus notre planète et qu'on essayait en tout cas d'échanger un peu plus et de s'ouvrir à ce monde qui est franchement pas dégueu. Et bah, peut-être que la vie serait meilleure pour tout le monde. Et voilà, j'essaie de rester sur un discours de fin extrêmement positif à cause de cette semaine. Mais c'est vraiment la conclusion que je m'en suis faite et je pense que je vais encore continuer pour que... Bah, en tout cas, le monde autour de moi change. Voilà.
Merci, très beau message, Mathilda. On en profite pour dire que du coup, tu cherches du boulot. Et si jamais il y a quelqu'un qui souhaiterait bénéficier de tes merveilleuses compétences, n'hésitez pas à écrire un petit message sur le post, soit sur Twitter, écrivez-moi, soit sur Instagram. Astrid, quelle est ton actu?
Moi, l'actualité que je voulais aborder, c'est la situation que traversent les professionnels de la culture aujourd'hui, suite à la cérémonie des Césars et ce qui s'y est passé. Je pense que c'était vraiment à aborder aujourd'hui. Petit rappel, du coup, c'est Corinne Massiero, comédienne, qui s'est présentée en costume de peau d'âne afin de dénoncer les violences sexuelles et qui s'est mise à nu sur la scène des Césars avec des inscriptions sur son corps « Nos cultures, nos futurs » et « Rends-nous l'argent ». Petit... Coucou Jean, quoi. Ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux, une série d'indignations dans la presse. Même Madame Roselyne Bachelot a qualifié la cérémonie de navrante, ce que je trouve très navrant. Et cerise sur le gâteau, 10 députés Les Républicains ont envoyé une lettre au procureur de Paris pour exhibition sexuelle. Cependant, en 2015, on n'en a pas fait un tel scandale quand Sébastien Thierry, lors de la 27e nuit des Molières, s'est présenté nu sur scène pour interpeller Fleur Pellerin. Plutôt, tout le monde était mort de rire, en fait. Mais le but de Corinne Massiero, c'était de parler de la précarité que rencontrent les personnes de la culture. De crier que ça n'allait pas. Encore jeudi, il y avait 63 théâtres qui étaient occupés par des intermittents, des étudiants précaires. Et ça a été aussi, d'après moi, au-delà de la culture, du message autour de la culture, important en fait de montrer le corps des femmes, un corps qui n'est pas celui que l'on voit sur les pubs de télé, qui n'est pas forcément mince, pas forcément sans cellulite, qui n'est pas forcément épilé, qui peut avoir les seins qui tombent et qui n'est pas forcément jeune. Et si les femmes sont sous-représentées dans les médias, eh bien les femmes d'un certain âge le sont encore plus. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que certaines femmes ont peur de vieillir ou n'acceptent pas leur corps vieillissant, parce qu'en fait, on ne leur montre pas une normalité, une réalité qui est la leur. Alors moi, je dis bravo Corinne Massiero. Et mon monde d'après, je veux qu'il donne plus de place à la culture et qu'il soit plus du tout patriarcal.
On ne peut que te soutenir ici. Merci beaucoup Astrid. Et enfin, Olivia,
s'il te plaît. Alors, d'abord, moi aussi, je veux dire mon soutien à Corinne Massiero parce que je trouve ça hallucinant qu'il puisse y avoir des gens qui aient attaqué ce qu'elle a fait. C'est complètement dingue. Enfin, et d'ailleurs, je trouve que sa réaction a été hyper digne, hyper juste, expliquer en quoi exhiber son corps, c'était aussi un acte politique. Donc, moi, j'ai trouvé ça, voilà. Bon, mais c'était pas mon... Alors, c'est pas vraiment mon actualité directement, par exemple, dans ce que je fais, mais je voulais en profiter, puisque tu m'en donnes l'occasion, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la question de l'aide alimentaire. Parce que, en fait, à Paris, on a doublé notre engagement financier sur les questions d'aide alimentaire. Les remontées du terrain sont hyper préoccupantes. Enfin, je veux dire, on a vu un peu partout des images effectivement qui montraient des queues de plus en plus importantes. Là, il ne faut pas croire, mais ce troisième pseudo-confinement qui n'en est pas un, mais qui fait qu'il y a quand même des gens qui vont fermer boutique, c'est le cas de le dire, va continuer d'accroître une certaine précarité. Et on est hyper préoccupés parce qu'y compris, il y a vaguement, on a besoin de l'aide de l'État. On ne peut pas être, nous, collectivités, les seules, avec les associations. Alors, enfin, les associations s'engagent énormément, mais on a vraiment besoin. Ils ont mis en place des appels à projets, mais on a plein d'échos du terrain qui nous disent que les associations n'arrivent pas à rentrer dans les cases et que nous, en tant que collectivité locale, on ne rentre pas non plus dans les cases de l'appel à projet de l'État. Et à un moment donné, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. La situation devient vraiment dramatique. Et il faut, enfin, voilà, les remontées sont très inquiétantes. Il y a énormément de gens qui ont faim, et c'est pas normal. Enfin, c'est pas possible. On peut pas laisser ça en l'état. Et donc, du coup, alors pour mon petit coup de cœur qui va avec, je voulais saluer une association qui s'appelle Copain, qui a été notamment Copain Solidarité Étudiante. Qui a été notamment donc monté par un jeune homme qui est top, qui s'appelle Ulysse Gutmann-Fort. Et moi, je voulais en profiter avec... ils sont deux, hein. Mais pour leur tirer mon chapeau, parce qu'ils sont hyper investis, c'est des gens super bien, et ce qu'ils font est super chouette. Donc voilà, c'est bien qu'on ait des gens qui s'engagent, on en a besoin, on est dans un moment un peu compliqué, et quand voilà, il y a ces moments de solidarité, il faut aussi les saluer. Donc, bravo à eux. Et puis, j'en profite pour interpeller l'État, là, pour dire on a besoin d'argent pour ce sujet-là, vraiment, et que ce soit très investi par tout le monde.
Merci beaucoup, Olivia. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce 19e épisode de Popol.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.